Ses yeux embués de larmes tourna la tête vers la boutique adjacente. Elle croisa le regard de son père. Et dans celui-ci, elle trouva l'ultime et terrible confirmation de sa culpabilité.
Papa, qu'est-ce que tu as fait?
Demanda-t-elle en soulevant les beaux draps tachés de sang. Morin Nouet, qui avait les bras chargés de marchandises, poussa un long soupir et roula les yeux d'un air furibond.
Qu'est-ce que tu fais là?
Demanda-t-il à sa fille tout en déposant ses nombreux paquets sur un étal.
Papa,
bredouilla Alice, toujours à genoux, comme clouée au sol par l'effroi.
Papa, c'est toi qui as tué Zacharias.
Et ce n'était pas une question. C'était l'énoncé de la plus épouvantable vérité. Catherine Nouet, qui venait d'arriver derrière son mari et qui comprit d'emblée ce qu'il se passait, fit une moue accablée.
« Tu sais ce qu'il a fait, ton vieux juif ?»
demanda le père sur le ton d'une colère qui sans doute voulait masquer son embarras. « Il a volé nos draps de Bruxelles, alors il n'a eu que ce qu'il méritait !»«
Tu mens !»
s'exclama la jeune fille en se levant d'un bond.
« Zacharias n'était pas un voleur, il n'aurait jamais fait ça !»«
Ah oui, et comment expliques-tu que ses draps étaient cachés derrière sa maison, hein ?»
Quelqu'un les y aura mis pour le faire accuser !
Répliqua Alice, et en disant ces mots, elle fut soudain saisie par la certitude que François avait organisé ce funeste traquenard.
Tu n'es qu'un assassin !
Alice, prise par une folie que seul le désespoir expliquait, se jeta sur son propre père et commença à le frapper à la poitrine de ses deux poings serrés. Elle reçut en retour une première gifle puissante, puis une seconde plus forte encore qui la fit tomber à la renverse. Mais Morin Nouet ne s'arrêta pas là. Gagné par une rage au moins aussi grande que celle de sa fille, il attrapa un bâton avec lequel on battait le linge, l'éleva au-dessus d'Alice et se mit à la rosser furieusement. Le bois cognait bruyamment contre les petits os de son enfant sans qu'il s'en émût, sur les jambes, sur les bras, les mains, le dos, avec une violence abominable et insensée. La petite, recroquevillée, les mains collées sur son visage dans une vaine tentative de se protéger, hurlait de douleur, poussait des cris de plus en plus stridents qui résonnaient entre les murs de l'atelier. Témoin de la violence démesurée de son mari, la drapière, après de nombreux coups hélas, se jeta sur Nouet pour le supplier d'arrêter. Le saisit par son bras punitif, et il est de l'avis du narrateur que sans ce geste maternel, la jeune Alice eût probablement poussé à l'issue de cette correction le dernier souffle de sa courte vie. Les yeux injectés de sang, Morin s'arrêta enfin, comme sorti d'une transe par les cris de son épouse, jeta son bâton au sol et sortit de la maison en proférant d'inaudibles jurons. On peut supposer à cet instant que l'homme prit la mesure de son excès, provoqué sans doute par la honte et les remords qu'il éprouvait lui-même, comme si frapper sa fille avait pu le libérer de sa culpabilité. Mais il était trop tard. Et Alice gisait au sol, le corps secoué de spasmes inquiétants. Et il y avait autour d'elle tant de sang qu'on eût dit la paillasse d'un boucher. Chapitre 46. Au matin du 9 mars, à son aube même, quand le messager du roi arriva, épuisé, au palais de la cité, il lui fallut peu de temps pour comprendre, par l'effervescence sombre de ses occupants, qu'il était arrivé un drame dans ses murs. Mais comme ses ordres étaient de ne parler à personne d'autre qu'à Guillaume de Nogaret, il ne posa aucune question et traversa l'édifice pour se diriger tout droit vers les appartements de celui-ci. Là, dans la chambre même du chancelier, au milieu d'une foule de servants, de conseillers et d'autres personnes qu'il ne connaissait pas, le messager vit Henri de Mondeville, la mine grave et les mains couvertes de sang. Le jeune chevaucheur se fraya un chemin au milieu de cette curieuse assemblée, puis, comme on l'empêchait de passer, s'écria en montrant la petite boîte en cuir armorié qu'il tenait dans la main « Laissez-moi passer, j'ai un message du roi Philippe pour monsieur de Nogaret !» Tous les regards alors se tournèrent vers lui. Et avant même que le grand chirurgien ne lui annonçât la nouvelle, le messager comprit enfin, comme le lecteur l'a déjà fait sans doute, ce qu'il était advenu. « Monsieur de Nogaret est mort. » Chapitre 47. Ce fut précisément en ce morbide moment qu'Andreas, assisté de son apprenti et de ses deux valets, ouvrit de nouveau son apothicairerie.